Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
Voici une grande enquête de gendarmerie. Un mélange de police moderne et de police à l'ancienne, parfaitement efficace. Une affaire qui se déroule en 2005 en Bretagne, en marge du Technival de Carnouët, un rassemblement de musique techno. On retrouve le cadavre d'une adolescente de 18 ans. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
On est en juin 2005 et Mathilde Kroguenec, est en vacances. Elle a 18 ans et ses parents ont accepté qu'elle aille à son premier Technival. Le Technival de Carnouët dans les Côtes d'Armor. 3 jours de musique techno à fond dans les oreilles, du vendredi au dimanche, sans s'arrêter. Les parents ont un peu tiqué, bien sûr, à cause de la drogue qui circule en général dans les Technivals. Mais bon, elle a 18 ans, il faut bien qu'elle prenne son envol. Et puis, le Technival de Carnouët se déroule depuis 2 ans dans un cadre légal, avec l'assentiment des autorités. Forcément, ça rassure. Les parents n'ont posé qu'une condition. T'iras avec tes cousines, hein? Sophie et Marie-Aude. Ah ben oui, ça nous rassurera quand même, hein? Va pour les deux chaperonnes. Et donc le vendredi matin, les voilà partis à 2 voitures, Mathilde et son petit copain, Adrien dans l'une, et les 2 cousines dans l'autre. Direction Carnouët, où ils arrivent en fin d'après-midi. Et là, le choc, 40 000 teufeurs ont déjà investi les 60 hectares de la fête. Ça va être chaud, chaud, chaud. Bon, si on se perd, faudrait qu'on se fixe un point de rendez-vous. Ouais, t'as raison. Écoute, on n'a qu'à se retrouver là, devant ce smiley, là, ce smiley géant. Ok, ça roule. Sage précaution que ce point de rendez-vous. Parce que, au bout d'une heure, emportés par la foule, Mathilde et Adrien ont perdu les cousines. Mais qu'importe, quelques verres, quelques pétards, et ils se mettent à danser. Dans la soirée, ils se retrouvent comme ça plusieurs fois, et puis ils se perdent à nouveau. Un Technival, ça n'est pas un rassemblement de scouts. Et puis, les premières lueurs du jour apparaissent, le jour se lève, chez les teufeurs, la fatigue commence à se faire sentir, et les 2 cousines sont au pied du smiley géant depuis un bon moment. Mais ils sont où, putain ? Mathilde et Adrien ne sont pas là. Au même moment, 2 autres teufeuses cherchent un coin discret pour faire pipi. Discret et propre. Parce qu'à cette heure-là, après une nuit de teuf, les toilettes sont dégoûtantes. Elles choisissent une petite forêt de sapins qui jouxte le champ. Elles entrent dans le bois et on les entend hurler. Elles viennent de buter sur un corps. Le corps d'une jeune fille, nue, les jambes écartées et couvertes de sang. Les gendarmes bouclent immédiatement la zone. Pour l'instant, la jeune fille n'est pas identifiable. Elle n'a ni ses papiers, ni son portable. Juste des clés de voiture au fond de la poche de son jean. Une teufeuse a été assassinée. La nouvelle parcourt le Technival comme une traînée de poudre. Et bien sûr, elle arrive aux oreilles des 2 cousines, pile au moment où Adrien déboule, hagard. Il a le sac et les chaussures de Mathilde à la main. Il a l'air complètement stone.
Oh, j'en peux plus. Je rentre me coucher.
Elles n'ont ni le temps, ni le courage de lui dire leur inquiétude. Adrien est déjà parti. Et donc c'est seul, en tremblant, qu'elles vont voir les gendarmes.
Bonjour. Voilà, notre cousine a disparu. Ça fait plus de 3 heures qu'on la cherche.
À quoi elle ressemble, votre cousine? Comment est-ce qu'elle est habillée, par exemple, s'il vous plaît? Ben, elle est blonde, les cheveux au carré, les yeux bleus. Elle porte un jean et un t-shirt, elle avait peut-être aussi un sweat. Elle est venue en voiture? Oui. Vous pouvez nous montrer la voiture? Arrivé à la voiture, les gendarmes sortent une clé de leur poche, celle qu'ils ont trouvée sur le corps, et ils la glissent dans la serrure. Et la voiture s'ouvre. La morte, c'est donc Mathilde. Mathilde a été assassinée. Les gendarmes ordonnent le bouclage complet du Technival. Vous prenez les identités de tous ceux qui sont là, tous. Le problème, c'est que beaucoup de teufeurs sont déjà partis. Ils relèvent 20 000 identités. Et ils interrogent les deux cousines.
Vous savez, Mathilde, elle était très sociable, comme on dit. Elle a forcément parlé à plein de gens.
Et son petit ami?
Bah lui, on sait pas trop. Et il nous a pas aidé à la chercher. Il est rentré chez lui et...
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui. Adrien, on a des doutes sur lui. Tout à l'heure, quand il est arrivé, il était bizarre. Et en plus, il avait son sac et ses chaussures. Le sac et les chaussures de Mathilde à la main. Il nous a même pas demandé où elle était. Et il est rentré chez lui.
Ah, ça nous fait une piste, ça. Le petit copain. Le lendemain à l'aube, les gendarmes convoquent Adrien, qui arrive avec ses parents. Ils le placent en garde à vue, direct, histoire de lui donner un coup de pression.
Je me souviens de rien. J'avais beaucoup bu. J'ai pris de la drogue aussi. Je suis incapable de vous raconter la soirée, incapable.
On lui fait une prise de sang, on prend ses empreintes et on le relâche. C'est peut-être lui, mais c'est trop tôt. Les tics, évidemment, les experts de la gendarmerie, ont ratissé la scène de crime. Ils ont trouvé un couteau à cran d'arrêt, couvert de sang, et l'emballage d'un préservatif maculé de sang lui aussi. Et puis, le légiste procède à l'autopsie du corps de Mathilde.
Bon, première chose sans surprise, elle avait bu, pas mal. Taux d'alcoolémie de 0,85 grammes par litre de sang. Et puis, sans surprise non plus, elle avait consommé de la drogue, alors on a de l'ecstasy et de la cocaïne. Bon, à part ça, j'ai compté 28 coups de couteau, dont au moins 15, 15 étaient mortels. Elle avait aucune chance d'en réchapper. Le foie, rien que le foie, est perforé à 6 endroits. Et les poumons aussi sont perforés. Ils sont pleins de sang. Elle est donc morte à la fois d'asphyxie et d'hémorragie, les deux en même temps.
Est-ce qu'elle a été violée?
Ça, c'est difficile à dire. À minima, elle a subi des attouchements, après la mort. Peut-être avant, mais des attouchements, au minimum.
Et puis, vous vous souvenez que près du corps, on a retrouvé un couteau à cran d'arrêt et un emballage de préservatif. Sur l'emballage, le labo a dégagé un ADN masculin. Mais la limite, c'est que, dans ce sous-bois tout proche du Technival, on a trouvé des préservatifs partout. On a baisé comme des lapins dans ce sous-bois la nuit du crime. Quant au couteau, le labo dit qu'il n'a trouvé aucun ADN dessus. Aucun ADN autre que celui de Mathilde. Mais les gendarmes sont têtus. Il renvoie le couteau au labo avec ordre de le démembrer, de le démonter entièrement. Un couteau à cran d'arrêt, il peut y avoir de la transpiration qui a glissé à l'intérieur et de tout petits bouts de peau qu'on appelle des cellules épithéliales. On retrouve ce genre de truc aujourd'hui. Et bingo!
Bon, vous aviez raison, hein. Il y a de l'ADN sous le manche du couteau.
Et ça n'est pas l'ADN du petit copain, Adrien, qui est donc mis hors de cause. Je vous le dis, les gendarmes de Saint-Brieuc ont décidé de mettre le paquet sur cette enquête. Ils constituent une cellule d'investigation spécialement dédiée, qu'ils baptisent Homicide 22. Et ils mobilisent 12 hommes à plein temps. Maintenant qu'ils ont un ADN, c'est plus simple. Par exemple, on leur a parlé d'un Polonais qui avait du sang sur son t-shirt. Ils vont le voir, ils lui font un test, ça n'est pas son ADN. Le Polonais rentre chez lui. 12 suspects vont comme ça sortir du dossier grâce à l'ADN. En parallèle, les gendarmes exploitent aussi ce qu'on appelle la téléphonie. Qui a appelé qui sur son portable ce soir-là depuis le Technival ? Réponse, 500 000 coups de fil ou SMS. Il y a de quoi se noyer. Mais les gendarmes ont l'habitude. Et surtout, il ne s'agit pas de traiter ces données avec une gomme et un crayon. On n'est plus dans la police à papa. Il y a des logiciels pour ça. Ils introduisent les données téléphoniques dans leur logiciel et ils les croisent avec les 20 000 identités qu'ils ont relevées sur place. Et puis, ils font tourner les deux fichiers croisés avec le fichier de la police. Et là, ils hallucinent. Ça clignote de partout. Ah ben dis donc, il y avait un paquet de délinquants dans ce Technival. En vérité, essentiellement des trafiquants de drogue. Les gendarmes étudient aussi, bien sûr, la téléphonie spécifique de Mathilde. Pas son téléphone, on ne l'a pas retrouvé, mais la facture détaillée de son portable, avec la géolocalisation des appels. Et le résultat est à la fois très intéressant et très surprenant. Le jour de son assassinat, le téléphone de Mathilde a accroché une borne à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, c'est-à-dire à 150 km du Technival. Et après, plus rien, plus un coup de fil. À partir de là, les jours passent, les semaines, l'enquête s'enlise. Pas une piste. Et là, les gendarmes décident d'en revenir au couteau. Le couteau à cran d'arrêt. Car ça n'est pas un modèle banal. On ne le trouve pas au supermarché du coin. Ce modèle de couteau à cran d'arrêt, renseignement pris auprès du fabricant, il ne s'en est vendu que 221 dans toute la France. Et vous avez un revendeur en Bretagne, s'il vous plaît ?
En Bretagne, voyons, oui, oui, le Grand Bazar, au Mont-Saint-Michel.
Quelle drôle d'idée de vendre des couteaux à cran d'arrêt au Mont-Saint-Michel. Bref, les gendarmes débarquent au magasin. Ils se font remettre les rouleaux de caisse des derniers mois. Et ils se lancent dans un travail titanesque. Bon, ce qu'on cherche, c'est un montant de 22,10 €. C'est le prix du couteau. Avec un peu de chance, le gars l'aura payé par carte ou par chèque. S'il a payé en liquide, évidemment, ça ne servira à rien. Tout ça leur prend un temps fou. Et ça ne débouche sur rien. Et l'enquête replonge dans le néant, dans la torpeur de l'été. Et puis, arrive le mois de septembre, la rentrée. Et soudain, le téléphone portable de Mathilde se remet à émettre, à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, justement, là où il avait été mis pour la dernière fois. On a changé la puce, mais vous savez que les portables ont un numéro à eux. Le numéro email. Quelqu'un utilise le téléphone de Mathilde avec une autre puce. Et grâce à cette puce, on sait tout de suite qui c'est. Et quand les gendarmes entrent le numéro dans leur logiciel, bingo de chez bingo. Le gars était au Technival le jour du crime. Il y était avec 4 amis. Encore mieux, dans les 4, il y en a un qui est fiché pour vol au pluriel.
Le 15 novembre, les 5 garçons sont placés en garde à vue. On commence par prendre leur ADN.
Bien, jeune homme. Savez-vous que vous êtes en possession du téléphone de la jeune fille qui a été retrouvée morte poignardée au Technival de Carnouët? Je vous écoute.
Oh non ? Oh, je vous jure, je savais pas.
C'est pourtant le sien. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Bah, ce portable, moi je l'ai trouvé. Il était au bord d'un champ où j'étais allé pisser.
Et pourquoi est-ce que vous avez attendu plus de 2 mois pour l'utiliser alors ?
Bah, j'ai fait tomber mon portable en septembre dernier, il s'est cassé. Alors je me suis souvenu que j'avais celui-là, quoi. Mais je vous jure, je savais pas qui était la propriétaire. Moi, je l'ai jamais vue, cette fille.
Il peut très bien mentir. Mais l'ADN de ces 5 garçons ne matche pas avec l'ADN du couteau. Alors ils sont blanchis et relâchés.
Ces atermoiements, évidemment, sont difficiles à vivre pour les parents de Mathilde. Régulièrement, on les appelle pour leur dire « il y a du nouveau ». Et puis dans la foulée, on leur dit « désolé, ça n'a rien donné ». Le père s'enferme dans la dépression. Et en janvier 2006, 6 mois après la mort de Mathilde, il meurt. Il meurt de chagrin, de désespoir. Ça fait 2 morts. Ça fait 2 morts. Et toujours pas de suspect.
Le procureur en est arrivé à un point où il envisage de relever l'ADN des 20 000 personnes identifiées au Technival. Et celui de tous les hommes adultes de Carnouët. Et s'il le faut, de tous les hommes fichés de la région. S'il va au bout, ça va coûter une petite fortune.
En attendant, les gendarmes continuent d'explorer toutes les pistes. Et à un moment donné, il décide d'exploiter les photos prises par Adrien pendant la teuf. Il a pris au total 40 clichés. Et comme il était souvent près de Mathilde, dessus, il y a peut-être la tronche du tueur. Il passe tous les clichés au crible. Et il les montre à Adrien et aux cousines de Mathilde.
C'est de là. Je sais pas qui c'est, ça me dit rien.
Ils isolent 2 hommes que personne ne reconnaît. L'un d'eux a un t-shirt siglé « Georgette Forever ». Il est rapidement identifié. C'est un cracheur de feu que Mathilde et ses amis ont croisé au cours de la soirée. Il est retrouvé, mais son ADN ne colle pas. Il est donc blanchi. Le deuxième homme, les gendarmes l'appellent « l'homme au pull rouge ». Il est brun, très bronzé, souriant. Il a l'air d'être saoul comme un cochon. Et sur l'une des photos, il est bras dessus avec Mathilde. Le cliché a été pris à 6h23 du matin. Personne ne se souvient de lui. Les gendarmes décident de diffuser cette photo à tous les commissariats et toutes les gendarmeries de France. On ne sait jamais.
La suite se passe au commissariat de Rennes, où un homme est entendu dans le cadre d'une affaire qui n'a rien à voir, une histoire de fraude au ticket restaurant. Et complètement par hasard, il voit sur le mur la photo de l'homme au pull rouge.
Ah mais je le connais, lui. J'ai fait mon service avec lui.
Vous êtes sûr de ce que vous dites ?
Ah ben oui. Comment il s'appelait déjà, ce taré ?
Ça prend un peu de temps. Mais un prénom lui vient.
Il s'appelait Alain, je crois. Enfin, j'en suis sûr même. Mais alors le nom de famille, j'ai zappé.
Le policier le laisse mariner encore un peu. Et tout d'un coup, il l'entend dire.
Alain Kernoa, Kernoa. Kernoa, c'est son nom, Alain Kernoa.
Ce type vient d'offrir un coup de pouce déterminant à l'enquête. Les policiers appellent tout de suite les gendarmes, qui se mettent immédiatement sur le coup.
Selon les premières infos que les gendarmes ont pu recueillir, cet Alain Kernoa travaille dans la marine. Il serait rattaché à l'arsenal de Brest. Alors ils vont à Brest. Mais leurs informations étaient un peu moisies. Kernoa ? On ne l'a plus chez nous. Hein. Il a quitté la marine il y a 2 ans. Et vous avez, je sais pas, une adresse, un contact ? Ah non, négatif. Rien du tout. Désolé. La marine leur fournit tout de même une photo. Et honnêtement, il ne ressemble en rien aux photos de la soirée. Il a l'air pâle alors que, sur les clichés, il était bronzé. Et là, bêtement, ils auraient dû commencer par ça. Les gendarmes passent le nom d'Alain Kernoa au fichier de police. Et ce Kernoa, il a été arrêté il y a 3 mois pour exhibition sexuelle.
Oui, oui, il se masturbait dans sa voiture. Et puis après, il a suivi une mineure. Et donc, elle a relevé sa plaque et c'est comme ça qu'on l'a coincé, quoi. Et vous allez pas le croire. Il a reconnu les faits, sans honte, en nous disant, bah oui, je me masturbe souvent dans ma voiture. Voilà.
Aujourd'hui, il vivrait à Marseille, chez ses parents. Les gendarmes mettent les comptes bancaires de ce Kernoa sous surveillance. Et là, ils s'aperçoivent qu'en ce moment, il est en Pologne. Et au passage, il ratisse ses relevés bancaires. Et quelques jours avant le Technival, l'oiseau était au Mont-Saint-Michel et il a dépensé 82,50 € à l'armurerie du Mont-Saint-Michel, le Grand Bazar. Et donc, possiblement, il a acheté là-bas ce couteau à cran d'arrêt, plus autre chose. Donc ça sent bon, tout ça, pourvu qu'il rentre de Pologne. Un jour, toujours sur son compte bancaire, les gendarmes voient qu'il vient d'acheter un billet Varsovie-Marseille. Il le cueille dès qu'il arrive chez ses parents et il le place en garde à vue. Au début, Alain Kernoa fait le mec qui ne comprend pas ce qu'il fait là. On lui fait une prise de sang, il se laisse faire. On aura les résultats dans 6 heures minimum. Alors en attendant, l'interrogatoire continue. Monsieur Kernoa, est-ce que vous vous êtes déjà rendu dans les Côtes d'Armor ?
Ouais ? Ouais, quand je travaillais en Bretagne. J'ai dû passer une fois en allant au Mont-Saint-Michel.
Qu'est-ce que vous êtes allé faire au Mont-Saint-Michel ?
Bah, je visitais, quoi.
Juste visiter ?
Oui. Ah, et puis j'ai acheté des couteaux aussi.
Il va même jusqu'à détailler les modèles de couteaux, dont le fameux couteau taïwanais de type Ranger's Knife à manche bleue ajourée. Toujours en attendant les résultats de l'ADN, les gendarmes perquisitionnent sa chambre chez ses parents. Ils se prêtent au jeu. Ils montrent tout ce qu'il a. Ses étoiles ninja, ses autres couteaux. Et là, les gendarmes tombent sur une recette pour fabriquer du GHB, la drogue du violeur. Et puis toujours dans l'attente des résultats ADN, ils reprennent l'interrogatoire.
Vous vous êtes déjà rendu au Technival de Carnouët, monsieur Kernoa ?
Bah oui. Moi, je suis allé au Technival de Carnouët l'année dernière.
Et qu'est-ce que vous avez fait là-bas ?
Bah, moi, j'ai écouté la musique, j'ai dansé, j'ai picolé, j'ai dragué des filles, j'en ai embrassé quelques-unes, je sais pas combien d'ailleurs, sous des tentes, derrière des camions, à l'abri des arbres, enfin, un Technival, quoi.
Ça se précise. Mais lui, continue de se la jouer, très décontracté. Il dit des trucs comme
« Oh putain, il fallait que je porte ma voiture au garage. J'avais pris rendez-vous pour demain, merde. Bah, elle va rester en panne. »
Ou encore
« C'est le mariage de ma sœur samedi. Bah, j'ai toujours pas acheté ma tenue, hein. Ça va me retarder tout ça. »
Et puis aussi
bah, « Il fallait que je passe au consulat de Pologne pour m'enseigner pour un permis de séjour pour ma copine. »
Et là, tombent les résultats des analyses génétiques. Il ne fait plus le mariole, parce que c'est lui. son ADN colle avec l'ADN relevé sur le couteau. Alain Kernoa est l'assassin de Mathilde, même s'il tente une dernière pirouette. Ouais, c'est vrai, j'ai rencontré cette fille. Et même à la fin de la nuit, j'ai fait l'amour avec elle dans une sapinière. Mais après, ça a mal tourné. Il y a 3 punks qui sont arrivés. Ils nous ont emmerdés. Et ils nous ont carrément agressés. Et là, ils m'ont mis un couteau dans la main et ils m'ont obligé à la frapper avec. Et je me suis enfui. Je sais pas ce qui s'est passé ensuite, moi. Des punks qui lui ont mis un couteau dans la main. Il fallait la trouver, celle-là. À 3h du matin, les gendarmes le remettent en cellule. À 8h, ils vont le rechercher. Et il a une nouvelle histoire à raconter. Mathilde, elle est venue avec moi de son plein gré. Au début, on a échangé des caresses, et puis... on n'a pas eu de relation sexuelle, hein. Et puis... je me suis mis à la frapper. Sans raison. J'ai commencé à lui donner des coups de couteau comme ça. Elle s'est enfuie. Je l'ai rattrapée. C'est comme si j'étais... dans un jeu vidéo, quoi. Et j'ai encore donné des coups de couteau. Mais c'est comme si, vous voyez, elle était en plastique, quoi. Je me souviens de l'appeler à la gorge. Elle était aussi large que mon doigt. Alain Kernoa vient d'avouer et il ajoute qu'il l'a déshabillée et qu'il a remarqué ses beaux petits seins ronds et ses jolies cuisses. Et il dit qu'il lui a touché le sexe avec les doigts. Et on voit tout de suite dans ses aveux quel sera le débat du procès. Il dit « Je me suis mis à la frapper sans raison. » Autrement dit, j'étais dans un état second. À cause des drogues qu'il avait prises ? Eh bien non, il n'a pas consommé de drogue ce soir-là. Juste de l'alcool. Alors avant de le retrouver sur les bancs de la cour d'assises, qui est ce garçon? Quelle est son histoire? C'est un fils de militaire devenu militaire lui-même. Manifestement complexé depuis tout petit par sa taille. Il a pris un traitement hormonal pour grandir, mais il n'a pas dépassé les 1m60. Les experts psychiatres disent qu'il est d'intelligence normale, sans déficience, et bien entendu qu'il est responsable de ses actes. Il dit qu'il a en partie oublié ce qui s'est passé la nuit du Technival. Mais les psys pensent que son amnésie l'arrange, que c'est un manipulateur, un dissimulateur, un mythomane. Ce que confirment beaucoup de ceux qui l'ont fréquenté dans la marine. Ah ben un jour, il a dit qu'il avait vu des dizaines de cadavres pendant le tsunami. C'était pas vrai. Il disait aussi à l'armée qu'il couchait avec des dizaines de filles. Et ça aussi, c'était un mensonge. La vérité, c'est que quand ils étaient en escale, par exemple à Kuala Lumpur en Malaisie ou à Djibouti, il allait au but, avec un intérêt marqué pour les jeunes filles mineures. Et d'ailleurs, il avait un petit nom à l'époque. On l'appelait le pédophile, ou Mister GHB. Le juge organise bien sûr une reconstitution à Carnouët, mais il dit que sa mémoire lui joue des tours. Il ne sait pas, dit-il, refaire les gestes. Le procès d'Alain Kernoa s'ouvre le 22 septembre 2008 à Saint-Brieuc.
La cour !
Et d'emblée, voilà sa ligne de défense.
Ben, je suis un fan de jeux vidéo, quoi. Je vis pas vraiment dans le monde réel. Je me suis cru dans un jeu vidéo, en fait.
C'est pas gagné comme ligne de défense. D'autant que pendant les débats, avec beaucoup de maladresse,
il a l'air persuadé de s'en tirer, qu'il va ressortir libre. Il ne réalise pas du tout la gravité de ce qu'il a fait. Ajoutez à ça que, pas une fois pendant le procès, il n'a un regard, un mot pour les parents de Mathilde. En revanche, il mate en permanence la petite sœur de Mathilde. Tout le monde le voit. Et d'ailleurs, à un moment, elle ne peut plus le supporter, elle quitte la salle, et une fois à l'extérieur, elle se met à pousser des hurlements. Des hurlements qui retentissent jusque dans la salle d'audience. Et puis vient le verdict. Et là, il comprend. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Il reste prostré dans son box pendant près de 20 minutes. Et bien sûr, il fait appel. Il est rejugé en février 2010 à Rennes. Et cette fois-là, il enrôle le meilleur des avocats, Éric Dupont-Moretti. Et Dupont-Moretti, voyez-vous, c'est un avocat qui est capable de recadrer son client quand il dégoise. C'est insoutenable, enfin! Soyez clair! Soyez net! Soyez précis! D'une certaine manière, Dupont-Moretti sauve ce procès. Mais pas son client, qui est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, dont 20 ans de peine de sûreté.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.